bonjour à tous. C'est le troisième jour de notre série consacrée aux champions du capitalisme français. Cette semaine, nous avons relaté l'ascension de deux géants, Alstom et Danone, dont l'histoire est aussi celle de l'essor industriel de la France et de son entrée dans la mondialisation. Le 19e siècle a vu émerger deux petites entreprises familiales devenues des fleurons du CAC 40. Parmi eux, BNP Paribas, qui trouve ses origines dans les sursauts révolutionnaires de 1848. Comment un simple comptoir d'escompte est-il devenu l'une des plus grandes institutions financières au monde? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Nous allons revenir aux origines de la BNP en compagnie de nos deux invités, Laure Kenwell-Corps, historienne, directrice de recherche au CNRS, et Nicolas Stoskov, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Haute-Alsace, tous deux membres du conseil scientifique de l'Association pour l'histoire de BNP Paribas. En fin d'émission, dans son journal de l'Écho, Xavier Martinet se penchera sur le Black Friday, chant du cygne ou cri de victoire du capitalisme. Réponse à 14h50. Laure Kenwell-Corps et Nicolas Stoskov, bonjour.
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 Et merci d'être avec nous aujourd'hui depuis chez vous. Alors on va retracer ensemble l'ascension de la BNP, qui est aujourd'hui la première banque française et l'une des plus grandes institutions financières au monde. Mais d'abord, on peut dire que toute l'histoire de la BNP a été marquée par ses relations avec les pouvoirs publics, Nicolas Stoskov.
Oui, on peut le dire, parce que les maisons mères de la BNP, lointaines évidemment, sont toutes les deux nées à l'initiative de l'État, c'est le comptoir national d'escompte de Paris et le comptoir d'escompte de Mulhouse, que les deux banques ont connu des crises très sévères, avec quasiment une destruction, et donc l'État est venu à leur secours pour les reconstituer. Pour ce qui est de la deuxième banque, c'est devenu la BNCI en 1932, que ces deux banques ont été nationalisées, qu'elles ont été ensuite fusionnées en 1966, sous l'autorité de l'État. Et puis ensuite, il faut bien dire que les banques aujourd'hui jouent un tel rôle dans la circulation de l'argent, évidemment, et donc dans l'économie, donc dans l'activité, que l'État ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans les banques.
En effet, même si la BNP a été privatisée en 1993, elle continue d'être un soutien important pour l'État français, Laure Kenwell-Corps.
Oui, tout à fait. Les relations entre l'État et les banques, et particulièrement BNP Paribas, c'est toute l'histoire du capitalisme français qui peut défiler sous nos yeux, puisque l'État a fait appel aux banques quand il a eu besoin d'elles, notamment pour financer sa dette publique grandissante depuis la Première Guerre mondiale, et ensuite au moment des crises répétées du capitalisme, notamment à la fin du XXe siècle, hein, la crise au début du XXIe siècle, pardon, la crise des dettes souveraines. Donc, quand on fait ce grand saut, on voit bien que l'État et les banques ont eu un rôle, ont eu une relation extrêmement étroite du point de vue de l'économie, de la finance même. Et en même temps, l'État a été aussi un régulateur du système bancaire et il a été parfois un actionnaire de certaines banques, dont BNP.
Alors, on va évoquer toutes ces questions avec vous dans la deuxième partie de l'émission, Laure Kenwell-Corps. Mais d'abord, commençons avec vous, Nicolas Stoskov, sur l'histoire et les origines véritablement de BNP Paribas, car l'ancêtre, ou plutôt les ancêtres de cette grande banque, sont nés en France dans le sillage de la Révolution de 1848. Écoutez ce qu'écrit alors la romancière George Sand dans une lettre adressée au poète ouvrier Charles Poncy. À Monsieur Charles Poncy à Toulon, Nohant, le 9 mars 1848. Vive la République! Quel rêve, quel enthousiasme! Et en même temps, quelle tenue, quel ordre à Paris! J'en arrive, j'y ai couru, j'ai vu s'ouvrir les dernières barricades sous mes pieds. J'ai passé bien des nuits sans dormir, bien des jours sans m'asseoir. On est fou, on est ivre, on est heureux de s'être endormi dans la fange et de se réveiller dans les cieux. Que tout ce qui vous entoure ait courage et confiance. La République est conquise, elle est assurée. nous y périrons tous plutôt que de la lâcher. Le gouvernement est composé d'hommes excellents pour la plupart, tous un peu incomplets et insuffisants à une tâche qui demanderait le génie de Napoléon et le cœur de Jésus, mais la réunion de tous ces hommes, qui ont de l'âme ou du talent ou de la volonté, suffit à la situation. Ils veulent le bien, ils le cherchent, ils l'essayent. Ils sont dominés sincèrement par un principe supérieur à la capacité individuelle de chacun, la volonté de tous, le droit du peuple. Tous mes maux physiques, toutes mes douleurs personnelles sont oubliées. Je vis, je suis forte, je suis active, je n'ai plus que 20 ans. Je suis revenue ici aider mes amis, dans la mesure de mes forces, à révolutionner le Berry qui est bien engourdi. Allons, j'espère que nous nous retrouvons tous à Paris, pleins de vie et d'action, prêts à mourir sur les barricades si la République succombe. Mais non, la République vivra, son temps est venu. C'est à vous, hommes du peuple, à la défendre jusqu'au dernier soupir. Nicolas Stoskov, c'est dans la ferveur de la proclamation de la Deuxième République que naît en mars 1848 deux institutions bancaires qui deviendront plus tard la BNP.
Oui, dans la ferveur que traduit bien George Sand, mais il faut bien dire que la situation financière est extrêmement grave, avec beaucoup de faillites, du chômage. Et là, quand George Sand écrit, on est encore dans l'illusion que tout va bien se passer, mais ça ne se passera pas très bien. La situation financière est très très grave et ce sont donc les commerçants, les artisans parisiens qui interpellent le gouvernement pour venir à leur secours et pour leur permettre de faire face à leurs échéances, à leurs engagements. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement républicain provisoire décide de créer des comptoirs d'escompte.
Alors, il faut expliquer en effet à Nicolas Stoskov que c'est à la fois une crise financière et une crise politique et que cela entraîne des faillites en cascade à ce moment-là parmi les établissements bancaires. Tout le monde se rue sur les espèces d'or et d'argent. Il est absolument urgent à ce moment-là pour les nouvelles autorités en place d'intervenir.
Voilà, l'argent se cache. À une époque où milieux professionnels, si vous voulez, dans le commerce, on ne paye pas en espèces, c'est-à-dire en or ou en argent, on ne paye pas non plus en billets de banque, le billet de banque étant d'une valeur très très élevée, hein, 500 francs à l'époque, ce qui représenterait aujourd'hui quelques 4000 euros, vous voyez, et on paye donc en papier donc manuscrit, avec une signature dans laquelle on s'engage à payer dans un délai de 3 mois. Donc ce système de paiement qui est généralisé dans les milieux professionnels suppose la confiance, et cette confiance justement elle fait complètement défaut en février 1848, c'est-à-dire que plus personne ne fait confiance dans les capacités d'autrui à honorer ses dettes. Et donc il faut absolument rétablir la circulation de l'argent pour pouvoir simplement permettre à l'activité de se poursuivre.
Et en quoi les comptoirs d'escompte permettent-ils de jouer ce rôle-là, Nicolas Stoskov ?
Voilà, alors le comptoir d'escompte, il sert à escompter les traites, c'est-à-dire les traites, les effets de commerce, le papier dont je viens de vous parler, c'est-à-dire à les payer par anticipation avant d'attendre le délai de 3 mois. Il permet donc de rétablir une circulation de l'argent et de rétablir une certaine confiance, donc, dans la mesure où il y a un intermédiaire financier qui s'interpose entre le créancier et le débiteur.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que l'escompte est apparu en France dès 1776, mais il se développe véritablement au XIXe siècle, Nicolas Stoskov ?
Alors, il se développe véritablement au XIXe siècle, évidemment avec la révolution industrielle, sauf que quand on est en 1848, la révolution industrielle est déjà derrière nous, on circule en train, les échanges de marchandises se sont énormément développés, alors que le système bancaire et financier, lui, est resté dans un état artisanal. Et donc ça va être tout le mérite du gouvernement républicain de lancer effectivement une révolution bancaire, en quelque sorte, en créant donc des établissements financiers sous forme de sociétés anonymes. Dans un premier temps, ces comptoirs d'escompte sont avec un capital tripartite, c'est-à-dire qu'on y retrouve l'État, les communes et des particuliers actionnaires. Mais dans un deuxième temps, ça deviendra des sociétés anonymes. Enfin, à partir de 1854, ça devient des sociétés anonymes traditionnelle.
En tout, ce sont 66 comptoirs, pardon, d'escompte qui sont créés en France, en particulier dans les régions du Nord-Est plus industrielles, avec cette idée d'être au plus près de l'activité locale, Nicolas Toscoff.
Oui, alors le gouvernement provisoire, par un décret, donc, offre la possibilité aux milieux commerciaux de créer des comptoirs d'escompte dans les villes où le besoin s'en ferait sentir. C'est la formule qui est utilisée. Et effectivement, on va voir 66 comptoirs d'escompte se créer en France, souvent à l'initiative donc des milieux d'affaires locaux. Hein. Et ce seront effectivement dans des villes de commerce et d'industrie.
Et vous diriez, Nicolas Toscoff, que ces comptoirs d'escompte créés en 1846 ont permis d'éviter une crise industrielle, une crise sociale en France ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'ils ont été effectivement très utiles parce qu'ils ont permis à l'activité de reprendre et aux échanges commerciaux de reprendre, mais ils n'ont pas évité, néanmoins, ils n'ont pas résolu du jour au lendemain le problème du chômage. Et vous savez que malheureusement, quelques mois plus tard, il y aura la révolte du peuple de Paris qui se traduira par les barricades de juin 48 et le massacre des insurgés. Donc, mais à plus long terme, donc à court terme, si vous voulez, ça n'a pas suffi, mais c'était absolument essentiel néanmoins. Mais à plus long terme, ça a marché, et la preuve, c'est qu'effectivement, certains comptoirs donc ont survécu en tout cas et ont prolongé leur existence.
Alors en effet, il faut préciser que le Second Empire, qui démarre en 1852, correspond à un retrait de l'État de ces comptoirs d'escompte. Il y en a beaucoup qui font alors faillite, mais le comptoir d'escompte de Mulhouse fait exception. Il va connaître une croissance fulgurante. Comment est-ce qu'on explique ce succès, Nicolas Toscoff?
Alors c'est un succès en plusieurs étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps, le comptoir d'escompte de Mulhouse, il survit déjà, il survit et il mène sa vie assez médiocre, mais sans drame, pendant tout le Second Empire, après 1870, alors que la plupart des autres comptoirs d'escompte, comme vous l'avez dit, avaient disparu, sauf celui de Paris bien sûr, sauf celui de Lille également. Et le comptoir d'escompte de Mulhouse a connu un essor véritablement formidable à partir de 1887, c'est-à-dire à l'arrivée d'un nouveau directeur qui avait 35 ans et qui a remplacé un ancien directeur qui lui en avait 80, ce qui vous donne déjà un petit peu le décalage évidemment entre les deux. Et ce nouveau directeur, Eugène Raval, a mené une politique offensive très originale en sortant de Mulhouse d'abord et en rachetant des banques locales et régionales dans une bonne partie de l'Est de la France, c'est-à-dire, évidemment, j'insiste, du côté français, alors que Mulhouse, à cette époque-là, entre 1887 et 1918, était évidemment une ville allemande.
Donc c'est une banque allemande dont le réseau se trouve essentiellement en France.
Voilà, c'est une banque allemande dont le réseau se trouve en France, dans les Vosges, en Bourgogne, dans le sud de la Champagne, ainsi qu'avec des agences au Havre, à Lyon, Marseille et Paris, bien entendu. Mais c'est une banque allemande. Et là, ça commence à inquiéter évidemment les autorités. Et là, on voit de nouveau l'intervention de l'État. C'est-à-dire qu'en 1913, dans les rapports d'Assemblée générale, on peut lire que sous la pression amicale de la Banque de France et du gouvernement, eh bien, alors pression amicale, ça veut dire qu'il y a eu sans doute eu évidemment des pressions assez, assez soutenues et assez fortes.
On comprend bien le féminisme
français. Pardon ?
On comprend bien l'euphémisme, en effet.
Tout le réseau français de cette banque allemande est séparé, donc, et transféré à une banque française qui est la Banque Nationale de Crédit, la BNC, hein, qui récupère, avec un siège à Paris, et qui récupère tout ce réseau français.
Alors, pourquoi ça nous intéresse, Nicolas Toscoff? C'est parce que cette Banque Nationale du Crédit, anciennement comptoir d'escompte de Mulhouse, va fusionner ensuite avec une autre banque issue de la Révolution de 1848, le comptoir d'escompte de Paris. Alors, ce sera plus tard, ce sera après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pour cela que ces deux comptoirs nous intéressent, donc le comptoir de Mulhouse et celui de Paris. Dans Virgile, c'est un récit autobiographique paru en 1947. Jean Genot revient sur son expérience au comptoir national d'escompte de Paris. Il est alors âgé de 16 ans. Écoutez. Le 28 octobre 1911, j'entrais au comptoir national d'escompte de Paris, agence de Manosque, en qualité de chasseur aux appointements de 30 francs par mois. Mon travail consistait à mettre des lettres dans des enveloppes et à les porter à leur adresse. On n'avait pas tardé à me charger en même temps de travaux moins colorés. Il s'agissait d'établir des bordereaux en alignant des additions de 35 chiffres compliqués d'agio. C'était une arithmétique sans grâce. Les lieux de paiement que je devais inscrire dans la deuxième colonne apportaient bien un petit intérêt géographique à l'affaire, mais il était malgré tout impossible de m'ajuster sensuellement à mon travail. C'est seulement par à-coup qu'à la suite d'un Saint-Étienne-les-Orgues, un Noyer-sur-Jabron, un Orpierre ou un Nyon, je voyais le temps d'un éclair apparaître l'épaule verte d'une colline, le vent d'un plateau ou la nuit tombant dans les châtaigneraies. Mais il fallait un bon trapèze volant. On en sortait écœuré. Et surtout, c'était rare. La puissance du nom s'épuisait vite. Il en fallait toujours de nouveau. Il m'était cependant impossible de bien faire le moindre travail sans être mélangé à lui par ma chair ou mon esprit. Alors je découvris que l'écriture pouvait être un dessin. Dès que la plume posait sur le papier, elle devenait la proie de l'invention, de l'impromptu. Les mots ne se dessinaient jamais pareils. Les chiffres renouvelaient chaque fois leur volute et, merveille des merveilles, tout cela devait être secret, dissimulé, soumis à des nécessités de clarté et de beauté conventionnelles. Il y avait tant d'inventions sous les bosses d'un 3, l'envol d'un 6, les plis d'un S, et tout cela avait été si immédiatement inventé, transmis à la main et exécuté, que ma sensualité y trouva son grand compte et que j'eus la passion d'écrire. Je veux dire, tremper ma plume dans l'encre et écrire des bordereaux d'escompte. Nicolas Stoskov, que vous inspire ce très beau texte de Jean Giono?
Il raconte bien le quotidien de l'employé de banque, qui est une catégorie évidemment nouvelle, qui se développe sous la Troisième République, et qui est un quotidien routinier, bien entendu, et on voit bien comment Giono cherche, lui, à s'évader un petit peu de ce quotidien.
Alors, pour bien comprendre, il nous faut revenir quelques décennies en arrière. Le point de départ de l'ascension du comptoir de Paris, c'est la signature en 1860 par Napoléon III d'un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, Nicolas Stoskov. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ce fameux comptoir de Paris?
Oui, alors, jusque-là, le comptoir de Paris était la banque du commerce parisien. Et l'État le charge de financer le commerce extérieur, d'ouvrir des agences en France, à l'étranger et dans les colonies pour contrôler l'approvisionnement en matières premières et damer le pion aux banques anglaises. Donc c'est effectivement tout à fait lié au traité de commerce avec l'Angleterre, c'est-à-dire que la France se projette dans un commerce international lointain. Et dès 1860, le comptoir d'escompte ouvre des agences à Shanghai, à Calcutta, à Bombay, à Hong Kong et un peu plus tard à Saïgon, pour contrôler l'approvisionnement, pour financer en tout cas, l'approvisionnement de l'industrie française, par exemple en soie, ou en coton, ou en indigo, etc.
Et alors sous le Second Empire, l'État fournit au comptoir d'escompte le cadre pour se développer, mais celui-ci reste une banque privée et indépendante, Nicolas Stoskov?
Absolument, c'est une banque privée. Alors, la direction est encore soumise à l'approbation du gouvernement, mais de plus en plus, donc, le contrôle de l'État se relâche sur ces banques, sur ces grands établissements de crédit, sur ces sociétés anonymes, qui inquiétaient quand même parce que la responsabilité dans les sociétés anonymes bancaires, elle est diluée entre tous les actionnaires, et c'était une nouveauté par rapport au système de la banque privée, de la banque patrimoniale, dont l'archétype est Rothschild, par exemple, une banque où c'est évidemment la fortune du banquier qui garantit les opérations. Là, donc, il y a toujours une certaine inquiétude, mais ça reste quand même des banques privées, absolument, et peu à peu, donc, l'État dessert son contrôle sur ces banques privées.
Mais alors, il y a un premier test pour ce comptoir d'escompte de Paris. En 1889, il est touché par une crise financière si grave que l'on redoute la faillite de l'établissement. L'État vient alors à la rescousse et c'est un sauvetage qui va permettre aux banques, d'une manière plus générale, de gagner en crédibilité auprès des épargnants, Nicolas Stoskov.
On est dans une période très difficile pour les banques. C'est la deuxième période. La première période difficile, c'était 1848. La deuxième période très difficile, ce sont les années 1880. On appelle la Grande Dépression. Donc il y a déjà eu un krach très important en 1882. Et en 1889, le comptoir d'escompte se laisse entraîner dans une spéculation sur le cuivre qui tourne mal et qui se traduit évidemment par l'inquiétude du public. La presse s'en mêle et il se passe ce qui est la hantise des banquiers, c'est-à-dire la ruée sur les guichets de la part des clients qui veulent retirer leurs dépôts avant, naturellement, que la banque ne fasse faillite. Et là, il faut l'intervention de la Banque de France, des autres banquiers de la place, sous l'impulsion du gouvernement, à l'époque Maurice Rouvier, ministre des Finances, pour sauver la banque, alors qu'on ne laisse pas aller jusqu'à la faillite, hein, on va arrêter les frais à un moment donné. C'est-à-dire la faillite, c'est la cessation de paiement, c'est le moment justement où on ne peut plus rembourser les dépôts, et vous vous rendez bien compte que si on n'avait pas pu rembourser les dépôts, ça aurait créé un précédent très grave dans la confiance que pouvait avoir la clientèle auprès des banques. Et donc, on arrête les frais, on liquidera plus tard, enfin, on liquidera donc ce qui reste du comptoir d'escompte de Paris, et on crée une nouvelle banque qu'on va appeler le comptoir national d'escompte de Paris. Donc, on réintroduit le mot national qui avait été perdu entre-temps. Et donc, il s'agit effectivement de montrer à la clientèle qu'elle peut avoir confiance, malgré toutes ces vicissitudes, dans la solidité des banques. Et ça, c'est très important, bien entendu. Et c'est une confiance qui, à travers l'histoire, a été souvent malmenée, comme on aura l'occasion de le revoir peut-être avec
Oui.
la BNC aussi.
Alors c'est un sauvetage qui va permettre une montée en puissance de ce comptoir national de Paris, puisque en 1900, il est le troisième, c'est la troisième institution nationale après la Société Générale et le Crédit Lyonnais. Il y a une véritable ascension en cette fin du 19e siècle, Nicolas Choskov.
Oui, alors oui, c'est-à-dire que l'ascension, effectivement, elle se déroule à la fin du 19e siècle et surtout dans la première décennie du 20e siècle, c'est-à-dire à la belle époque. Hein, c'est vraiment l'âge d'or là à ce moment-là de la banque et de ces grandes banques parisiennes qui étendent effectivement leur réseau en France. C'est-à-dire qu'elle crée des guichets un peu partout en France, enfin notamment le comptoir d'escompte de Paris, le comptoir national d'escompte de Paris, donc essaye d'avoir un réseau français pour aller à la recherche d'une clientèle. Une clientèle qui n'est pas encore une clientèle de masse, hein, qui est une clientèle bourgeoise, qui est une clientèle donc fortunée et de professionnels. Mais c'est le moment, effectivement, où les grandes banques parisiennes que vous avez citées, eh bien, atteignent une sorte d'apogée de leur puissance et jouent un grand rôle à la fois comme banque d'escompte dans le crédit à court terme, mais aussi comme pour l'émission, par exemple, des emprunts d'État, les fameux emprunts russes, bien que le comptoir d'escompte de Paris n'ait pas eu un grand rôle dans les emprunts russes, mais vous voyez, c'est pour simplement vous montrer un petit peu ce genre d'activité des banques.
Et juste après, dans ce classement du début du XXe siècle, juste après le comptoir national d'escompte de Paris, il y a l'ancien comptoir de Mulhouse, la Banque nationale du crédit, qui occupe la quatrième place donc et qui continue sa croissance également dans ses premières décennies du XXe siècle.
Pardon, excusez-moi. Oui, il continue sa croissance et de façon beaucoup plus agressive que le comptoir national d'escompte de Paris. C'est une banque qui a cette culture, si vous voulez, qui est toujours conduite par Eugène Raval. Et quand, par exemple, au début de la guerre de 14-18, donc la BNC est toute jeune, puisqu'elle est née en 1913, on décide un moratoire des dépôts, c'est-à-dire qu'on décide de permettre aux banques de ne pas rembourser immédiatement les dépôts pour éviter justement que les caisses se vident. Eh bien, la BNC prend le contre-pied de ses confrères et décide, elle, de maintenir ses guichets ouverts. Et pendant la guerre et après la guerre, elle mène cette politique commercialement agressive de construction d'un réseau, toujours en rachetant des banques locales. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Le processus est de racheter des banques locales et régionales avec leurs patrons, leur personnel et leur clientèle. Alors que les autres banques, les autres grandes banques de dépôt ont plutôt l'habitude de créer des agences ex nihilo, en recrutant des employés sur place, en envoyant un directeur, etc. etc. Donc c'est une démarche qui est assez différente et qui a très bien marché en ce qui concerne la BNC, qui a continué son ascension au début des années, enfin pendant la guerre et au début des années 20.
Une stratégie payante pour la BNC, mais c'est en même temps une banque qui va être largement secouée par la crise de 29. Je vous propose d'écouter Joseph Caillaux, le président de la commission des finances du Sénat, dans une archive de 1932.
Une crise presque sans précédent s'est abattue sur le monde. J'en avais prévu et prédit l'avènement dès le mois d'août 1924, lorsque, parlant au Mans, j'indiquais que l'heure était venue de la grande pénitence économique et financière, ce furent mes propres termes. L'avènement de la tourmente furent tardés par divers faits, surtout par les inflations monétaires que les gouvernements distribuèrent à l'envi dans le monde et qui eurent à peu près le même effet que la piqûre de morphine que le médecin inflige à son patient, qui endort le mal, mais qui laisse cheminer sourdement et qui lui ménage une irruption d'autant plus violente qu'elle a été artificiellement tardée.
Voilà, Joseph Caillaux, président de la commission des finances du Sénat, dans une archive de 1932. Comme avec le comptoir d'escompte de Paris en 1889, l'État va cette fois encore voler au secours de l'ancien comptoir de Mulhouse, Nicolas Stoskov.
Oui, alors l'ancien comptoir de Mulhouse qui est devenu donc la BNC, qui rachète en 1930 d'ailleurs ce qui restait du comptoir d'escompte de Mulhouse, qui est devenu une banque très puissante, mais qui est une banque qui a des liens un petit peu trop rapprochés avec un industriel qui s'appelle André Vincent, qui est un polytechnicien, qui est un brillant industriel, qui est le patron, qui devient le patron de la banque en 1927, et qui considère que c'est un peu un outil au service de ses activités industrielles, donc dans la Loire ou à Paris, etc. Et donc le problème, c'est que la BNC est lourdement engagée dans des activités qui subissent de plein fouet la crise. Et là aussi, il y a un moment où, en 1931, se produit donc un effondrement du cours de bourse, donc un krach boursier classique, et une ruée, une nouvelle ruée donc des déposants. Pour retirer donc leur dépôt, c'est toujours encore une fois l'histoire se répète. Mais il faut quand même dire, alors là de nouveau effectivement le gouvernement intervient avec exactement le même, enfin un processus assez proche de celui de 1889, c'est-à-dire que on prononce la liquidation de la banque, elle ne va pas jusqu'à la faillite et on la reconstitue sous le nom donc de Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, la BNCI. Alors, ce qu'il faut dire quand même, néanmoins, c'est que on a évité en France, malgré un certain nombre de faillites de banques et de crises graves comme celle que je viens de décrire, sans aller jusqu'à la faillite, on a évité quand même l'effondrement du système bancaire qui s'est produit, par exemple, en Allemagne. Et ça, c'est quand même très important. Donc, la crise bancaire n'a pas été aussi sévère en France qu'elle l'a été en Allemagne.
Grâce à l'intervention de l'État ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, Nicolas Stoskov?
Pardon?
Grâce à l'intervention de l'État ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cela, à cette différence entre la France et l'Allemagne?
En tout cas, effectivement, il y a eu l'intervention de l'État, l'intervention de la Banque de France, l'intervention des autres banques, hein, parce que la BNC n'a pas été la seule banque en difficulté. Il y a eu des pompiers, si vous voulez, à ce moment-là, qui ont éteint les incendies avant qu'il ne se propage à tout le système. Car c'est toujours la crainte qu'on a. Dans toutes les crises bancaires, on a toujours la crainte que, naturellement, l'incendie se propage. Et il faut donc le circonscrire. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est effectivement de le circonscrire. Je crois que là, ça a été plutôt une réussite, oui.
Et alors, à la Libération, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Paris et Mulhouse comptent deux solides établissements bancaires qui vont se réunir pour former ce qui est aujourd'hui la première banque privée de France, BNP Paribas. On en parle dans un instant.
Tom Cranker, and I'm a jolly banker. I'm a jolly banker am I. I safeguard the farmers and widows and orphans, singing I'm a jolly banker am I. When dust storms are sailing and crops they are failing, I'm a jolly banker am I. Check up your shortage and bring down your mortgage, singing I'm a jolly banker am I. When money you're needing and mouths you are feeding, I'm a jolly banker am I. I plaster your home with that furniture alone, singing I'm a jolly banker am I.
Jolly Banker, la reprise du titre de Woody Guthrie par Billy Bragg et Wilco. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Et nous continuons à évoquer l'ascension d'un géant BNP Paribas. Nous sommes toujours en compagnie des historiens Nicolas Stoskoff et Laure Kenwelker. Alors comment BNP Paribas est-elle devenue la première banque privée de France? D'abord, il faut dire que la BNP, qui n'est pas encore Paribas, naît à proprement parler en 1966. C'est une fusion des comptoirs d'escompte de Mulhouse et de Paris, deux établissements qui ont été nationalisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout comme le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Expliquez-nous, alors Kenwelker, pour quelles raisons ces nationalisations ont lieu? Qu'est-ce qui est reproché alors aux banques françaises au lendemain de la guerre?
Alors, ça part effectivement de deux grandes raisons. Premièrement, on a considéré que les banques n'avaient pas joué leur rôle de financement de l'économie française dans l'entre-deux-guerres, qu'il y avait un retard français. Et donc que les banques, en fait, les grandes banques, étaient trop frileuses dans la distribution des crédits et plus soucieuses de leur sécurité que de rendement. Et donc il y a cette première réaction qui explique que l'État veut reprendre en main tous les leviers du crédit après la Seconde Guerre mondiale pour la reconstruction et la modernisation de la France. Et cette première critique s'ajoute le fait que le programme national de la résistance, donc qui allie les gaullistes, les démocrates chrétiens et les communistes, souhaite effectivement que l'État joue un rôle prépondérant dans l'économie et dans la distribution du crédit pour financer cette économie et pour orienter l'épargne vers l'économie. Donc ce sont les deux raisons qui sont invoquées pour nationaliser les quatre grandes banques de dépôt.
Est-ce qu'il faut expliquer, c'est que plus largement, le secteur bancaire est entré à ce moment-là dans une phase de réglementation beaucoup plus stricte, ce qui fait que les banques publiques, évidemment, participent à l'effort de reconstruction, mais les banques privées aussi sont en quelque sorte forcées de participer à l'effort national, Laure Kenwelker.
Absolument. Toutes ces nationalisations du crédit s'insèrent dans une politique du crédit dirigiste beaucoup plus vaste. Donc, qui va en prolonger, en fait, des mesures prises sous Vichy, qui va, avec la loi bancaire de 1941, va instaurer une véritable réglementation du système bancaire, ce qui n'existait pas auparavant. N'importe qui pouvait mettre sa plaque en bas de l'immeuble et dire qu'il était banquier. À partir de 1941, on va être obligé de s'inscrire sur une liste des banques ou des établissements financiers, ce qui va créer en fait une différenciation de fait entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, la loi de 41 qui va être poursuivie après la guerre interdit aux banques, enfin demande aux banques plutôt de euh, une d'avoir une autorisation pour ouvrir des agences en France et à l'étranger. Donc en fait, elles sont soumises un peu au contrôle de la commission de contrôle des banques qui dépend de la Banque de France.
Beaucoup plus de contrôle et l'État, vous l'avez dit, Lorcan Wilcore, veut mener une politique économique dirigiste et pour cela, il s'en donne les moyens. Ça passe notamment par la création de nouvelles institutions comme la direction du crédit qui vise à aiguiller les investissements vers les industries que l'État veut développer.
Oui, c'est le nom qu'on donne à l'époque à la direction du Trésor. On veut vraiment marquer le coup, mais c'est assez temporaire, en fait, cette appellation direction du crédit. Ce qui compte, c'est que la politique du crédit va perdurer, et les instruments vont perdurer presque jusque dans les années 80, hein, avec la fixation des taux d'intérêt, la fixation des commissions bancaires, l'établissement aussi, donc toujours du nombre d'agences et de guichets qui doit être autorisé au moins jusqu'en 66. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que ça n'a pas empêché les banques de croître relativement sereinement. En tout cas, elles n'ont pas subi de crise à cette époque-là. Mais l'État actionnaire était un actionnaire dormant, et qui n'a pas du tout fourni de dotation en capital aux banques, et qui s'est contenté de nommer les présidents de banque et de surveiller qu'elles ne prenaient pas trop de risques. Donc en fait, banque nationalisée ou banque commerciale privée était en fait un peu à la même enseigne, soumise à une politique dirigiste du crédit, qu'elle soit nationalisée ou non.
Et là arrive l'année 1966 et la décision de créer un champion national.
Une importante fusion vient d'être décidée à l'échelon bancaire. La BNC, Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, et le CNEP, Comptoir National d'Escompte de Paris, vont réunir leurs moyens d'action et prendre le nom de BNP, Banque Nationale de Paris. Le nouvel organisme devient par cette fusion de bilan la première banque française suivie du Crédit Lyonnais et de la Société Générale. Le bilan de ces trois banques représente 52% du bilan total des banques françaises. Comme dans les autres secteurs économiques, la concentration est à l'ordre du jour. Le mariage de la BNC et du CNEP va permettre de renforcer leur action. La BNC, par exemple, n'a pas assez de guichets dans la région parisienne. Le CNEP, lui, y est bien implanté. En province, les réseaux des deux banques sont complémentaires. À l'étranger, la CNEP a des filiales notamment aux États-Unis et en Australie, la BNCI en Suisse, en Angleterre et en Afrique noire.
Voilà, c'est Michel Debré, alors ministre des Finances, qui décide donc de fusionner les deux établissements publics pour créer la BNP, la Banque Nationale de Paris. L'objectif, Lorcan Wilcore, c'est de favoriser l'expansion économique de la France.
Oui, c'est en fait de créer, selon les propres mots de Michel Debré, une véritable force de frappe financière, aussi bien pour l'économie française que pour l'expansion des entreprises françaises à l'étranger. Hein, parce qu'à l'époque, on est dans la période gaulliste, où la France a recouvré un taux de croissance extrêmement important de 5%. Elle est très dynamique et on a l'intention de soutenir les champions nationaux, notamment à l'étranger. Et donc il fallait une force de frappe qui soit équivalente à ces grandes entreprises industrielles en train de se développer. Et c'est la raison pour laquelle Michel Debré... Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une fusion qui a été imposée par le ministre des Finances. Il a préparé en secret avec son cabinet, il a convoqué les deux présidents de banque et leur a dit « voilà, vous allez fusionner ». C'est une chose qui paraît totalement surréaliste aujourd'hui.
Et c'est aussi une période, Lorcan Wilcore, où les cartes bleues, les distributeurs automatiques apparaissent en France et où le compte courant se généralise. La BNP va participer à toutes ces transformations.
Tout à fait, elle va accompagner en fait la bancarisation de l'économie française, la multiplication des agences sur tout le territoire. Elle développait ce qu'elle a appelé la banque de proximité, avec des agents commerciaux, un service marketing très développé, effectivement développer la carte bleue, puis ensuite avec l'informatisation, elle va développer aussi tout un ensemble de services à sa clientèle, qu'elle soit de particulier ou d'entreprise.
Après 1945, il faut préciser qu'une nouvelle vague de nationalisation intervient en 1981, au lendemain de l'élection de François Mitterrand. La Banque de Paris et des Pays-Bas, qui deviendra Paribas notamment, est nationalisée. Quel est le but de l'opération Lorcan-Welcor et quel impact sur le développement du groupe Paribas avant sa fusion avec la BNP?
Alors tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, sur ces 60 ans, il y a eu 2 nationalisations et 2 fusions pour ce groupe. Donc c'est intéressant de voir que dans ce laps de temps, ce laps de temps a fait naître un groupe. Donc en dépit des nationalisations, j'ai envie de dire de manière un peu provocante, et grâce à des fusions. Alors effectivement, la nationalisation de 82, elle n'a pas les mêmes arrière-pensées que celle de 1945. C'est vraiment une nationalisation qui est dans le programme commun des socialistes et des communistes depuis 1978 et qui consiste à dire qu'il faut l'État prenne les leviers du financement pour orienter les investissements des entreprises, considérant que les banques de la place ne font pas leur travail et que c'est à eux, socialistes et communistes, de le faire.
Mais pour vous, c'est une décision qui est plus idéologique qu'économique, Lorcan-Welcor?
Oui, je pense tout à fait que c'était vraiment la volonté de collectiviser un outil de financement. Et le fait est que, à l'usage, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Ça a un effet plutôt négatif sur le groupe Paribas.
Sur les groupes Paribas, ça a réduit la rentabilité des banques à cette époque-là, et ça a surtout fait un repli hexagonal des activités bancaires, ce qui a forcément été très nocif pour une banque très internationalisée comme Paribas.
Mais ça ne dure pas bien longtemps, puisque avec la cohabitation et l'arrivée de Jacques Chirac à Matignon en 1986, s'ouvre le temps des dénationalisations, une politique à laquelle s'oppose Dominique Strauss-Kahn à l'Assemblée nationale. Écoutez-le ainsi que la réponse que lui fait Jacques Chirac.
Vous menez une opération qui cherche à privatiser les bénéfices d'une bonne gestion publique. Vous nous trompez en prétendant protéger suffisamment les intérêts nationaux. Certains d'entre vous, je le crois, le font par ignorance, d'autres par duplicité. Vous préparez une commission d'évaluation où, après avoir placé les copains, vous allez vendre aux copains.
Chacun sait que les questions les plus sensibles, qu'il s'agisse de l'évaluation des entreprises cédées, comme de la protection des intérêts nationaux, ont été entourés de toutes, je dis bien de toutes, les précautions utiles et possibles. Le texte offre, c'est le moins que l'on puisse en dire, toutes les garanties souhaitables.
Ce qu'évoque ici Dominique Strauss-Kahn, qui donc s'exprimait avant Jacques Chirac, qui était alors Premier ministre, ce qu'il évoque, c'est le soupçon de corruption qui pèse sur les relations entre l'État et les grandes banques nationales. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Lorcan-Welcor?
Alors là, c'est vraiment l'intervention de Dominique Strauss-Kahn est vraiment dans un contexte idéologique extrêmement marqué. On est passé des nationalisations aux privatisations de Balladur. On a un bascule en quelques années, donc il faut bien avoir conscience que ce discours est très très idéologique. Il n'y a aucune preuve de cela, en tout cas dans les écrits et dans les archives qu'on connaît. Ce qui a été reproché au gouvernement Chirac et au ministre qui a été en charge des privatisations, Édouard Balladur, ça a été le manque de transparence dans l'évaluation des prix de vente des entreprises privatisées, d'une part, et dans la constitution des noyaux stables. Donc voilà, donc il a rectifié le tir après en 1993, mais je pense que l'accusation de corruption est un peu forte.
Alors Paribas est privatisé assez rapidement, puis c'est le tour de la BNP en 1993, ce qui va booster sa croissance, alors même que l'économie française traverse une mauvaise passe au début des années 90.
Oui, absolument. Donc là, c'est vraiment le...
Attention à votre micro simplement, alors qu'Enouel Cor, on l'entend beaucoup.
Pardon, excusez-moi. En fait, ce qui se passe, c'est que on est rentré dans les années 80-90 dans ce qu'on a appelé la seconde globalisation financière, avec une concurrence très âpre entre les banques françaises entre les banques françaises et étrangères. Et en plus, la situation de BNP et de Paribas est rendue d'autant plus difficile que à l'intérieur de l'Hexagone, elles doivent se confronter aux banques mutualistes qui sont souvent soutenues par les pouvoirs publics. Donc à cette époque, il y a vraiment une volonté de chercher des croissances externes, des fusions ou des rachats pour pouvoir se consolider et avoir une taille européenne.
Et certaines n'y arrivent pas. Il y a la banque Palastern, par exemple, va couler en 1995 et le Crédit Lyonnais en 1993 frôle la faillite. C'est une période très très compliquée pour les banques, Lorcan Welker.
Tout à fait, parce qu'il y a toujours la tension entre accroître sa surface financière et sa rentabilité et d'un autre côté ne pas prendre trop de risques. Et donc là, en l'occurrence, le Crédit Lyonnais a fait une politique tous azimuts de croissance externe qui a été néfaste.
Mais l'enjeu, en effet, c'est de créer un géant d'envergure européenne, vous l'avez dit, Lorcan Welker. C'est pour cela que la BNP fusionne avec Paribas en 1999. Expliquez-nous peut-être pourquoi est-ce que c'est important pour une économie et pour un État d'avoir comme cela une institution, une puissante institution bancaire comme celle que devient donc BNP Paribas.
Parce que ça revient à votre première interrogation sur les relations entre un État et les banques. Hein. L'État a besoin des banques pour s'appuyer sur elles, pour se financer et pour financer son économie. Hein. Donc il faut pas. C'est vrai que même les établissements qui sont privatisés ont des relations institutionnelles avec le ministère des Finances et avec la Banque de France d'ailleurs, pour co-gérer la place financière de Paris.
Et aujourd'hui, par exemple, la BNP aide la France à placer sa dette sur les marchés financiers plus que d'autres banques, peut-être, Lorcan Welker.
Attendez, j'aimerais bien revenir d'abord sur la question de financement. Je veux dire, par exemple, BNP a financé des grands projets, hein, comme TGV Nord, Euro Disney, le tunnel sous la Manche. Et elle a aussi été obligée de soutenir les entreprises en difficulté dans la sidérurgie et le textile à la demande de l'État. Hein, donc tout ça pour vous dire que pour l'État, c'est important d'avoir aussi un outil financier. Alors au moment des crises que vous évoquez, effectivement, c'est d'autant plus important que l'État a besoin des banques pour financer sa dette, hein, financer ses dettes, et ça c'est pas nouveau, hein, mais ça s'est accru depuis une dizaine d'années, mais depuis déjà ça c'était le cas depuis la guerre de 1914. Donc effectivement, BNP contribue comme d'autres, hein, BNP Paribas contribue comme d'autres à financer la dette de l'État, mais elle est aussi elle est refinancée par la Banque Centrale Européenne. Donc là, il ne faut pas voir aussi les rapports entre les banques et l'État comme un face-à-face. Il y a cette espèce de triangulation entre la Banque Centrale qui finance l'État directement ou qui refinance les banques pour leur permettre en partie de financer l'économie ou l'État.
Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, alors Ken Welker, de champions bancaires européens? On assiste en ce moment à une concentration du secteur bancaire européen, mais est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on constate c'est que du côté des autorités européennes, on semble plutôt favorable à cette idée?
Écoutez, on a un exemple flagrant avec la crise sanitaire d'aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? C'est que les grandes banques américaines se sont retirées du continent européen pour financer leur économie nationale. Donc, heureusement qu'on a des champions bancaires européens comme BNP Paribas pour rester sur place et financer les entreprises françaises, les petites, les grandes, et contribuer à à la survie des économies, notamment à travers le plan de relance.
Mais est-ce que ce n'est pas risqué de créer des institutions too big to fail, trop gros, trop grosses pour faire faillite? On pense au rapprochement qui pourrait avoir lieu entre la Société Générale et la BNP. Est-ce qu'on n'a pas besoin de différents acteurs plutôt que de géants bancaires européens, Lorcan Wellcome?
Oui, vous avez raison. Il ne faut pas de monopole, surtout pas. La concurrence est saine, mais elle est extrêmement active. Simplement, il y a un moment où il faut avoir une taille suffisante pour pouvoir répondre d'abord à la demande des grandes entreprises aussi qui ont besoin des différents métiers bancaires à travers le monde, hein, parce qu'en fait l'essor aussi des grandes banques comme BNP Paribas, ça a été d'accompagner les grands groupes industriels à travers le monde. Donc on a besoin de cette accumulation de compétences diverses, de métiers variés pour accompagner les grandes entreprises. Et puis, comme je vous l'ai dit, on a aussi besoin de banques plus petites. Mais regardez comme historiquement ce qui s'est passé, c'est que toutes les banques régionales malheureusement ont disparu ou ont été rachetées par des grands groupes parce que malheureusement, l'heure est aux fusions depuis les années 90, 2000.
Alors, on arrive au terme de cette discussion. Je voudrais vous entendre là-dessus l'un et l'autre, Nicolas Stoskoff et Lorcan Wellcome. Est-ce que la force de BNP Paribas n'est pas d'être à la fois une banque d'investissement d'envergure mondiale et une banque de proximité? Et ça, c'est peut-être aussi ce que nous montre l'histoire de cette grande institution bancaire, Nicolas Stoskoff.
C'est-à-dire ce qu'on voit effectivement, c'est que la banque actuelle est le produit d'une histoire, et d'une histoire qui a connu ses moments de gloire et ses moments extrêmement difficiles. Et ça nous rappelle que la banque est une activité à risque. Alors on a dit tout à l'heure que l'État avait besoin des banques, que l'économie avait besoin des banques. Moi je dirais aussi que la société a simplement besoin des banques. Et aujourd'hui nous vivons tant bien que mal sans restaurant. Que ferions-nous sans électricité et que ferions-nous si les banques n'étaient pas là pour aussi la vie quotidienne? C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les grandes entreprises et l'international, il y a aussi la circulation de l'argent, les services rendus aux particuliers. Et là on revient effectivement finalement au 19e siècle et aux difficultés de paiement, quoi, au paiement quotidien. Il faut aussi, les banques servent aussi à ça.
Lorcan Wellcome.
Oui, c'est vrai que ça a été une des réussites de BNP Paribas depuis une vingtaine, trentaine d'années. Ça a été justement de marcher sur ses deux pieds, hein, la banque internationale, la banque de finances internationale et la banque de proximité, en essayant de garder justement un chiffre d'affaires équilibré et entre les deux, et en gardant des emplois justement dans ces deux domaines. Donc je pense que c'est effectivement un des enseignements qui est le fruit de l'histoire, d'une culture, mais aussi d'une stratégie volontaire de la part des dirigeants.
Un grand merci à tous les deux, Lorcan Wellcome et Nicolas Stoskoff, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci de nous avoir éclairé sur cette ascension de ce géant bancaire qui est BNP Paribas. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Une semaine après sa date habituelle, c'est donc demain le Black Friday, la plus grande foire de France, populaire et polémique. Une controverse à cheval sur deux démons économiques, la surconsommation et le commerce en ligne.
Et oui, le Black Friday aura-t-il des allures de ruée vers l'or ou de file d'attente soviétique? Pour l'instant, de télétravail, car il a en fait déjà commencé en ligne depuis 3 semaines. Le succès populaire se confirme, 6 milliards d'euros de dépenses l'année dernière, dont 5 pour les commerces physiques. Même les soldes seraient devenus démodés. Pourtant, cette année, ce sont bien les commerces physiques qui ont pris la tête de la contestation, habituellement animée par des partis et associations avec de nouveaux arguments juridiques. L'UFC Que Choisir dénonce un nid à promotion bidon aux publicités mensongères sur des prix artificiellement gonflés avant les rabais. En fait, la vraie décote ne serait que de 2 à 5%. Et pour preuve, ajoute le directeur de la CAMIF dans l'Express, si ces rabais étaient vrais, vendre à moins 90% reviendrait à vendre à perte. Et or, en période de solde, c'est interdit. Rabais, remises, ristournes, continue-t-il, ont été détournés. Les moins 90% n'existent pas. Il demande donc l'application d'une directive européenne et de la loi sur l'économie circulaire de février censée être anti-gaspillage.
Certains veulent aussi aller plus loin et interdire carrément le Black Friday.
Et oui, là, c'est la contre-offensive des quatre principales fédérations de commerçants, petits et gros, pour la première fois en front uni, contre le commerce en ligne qui profite de la guerre sanitaire, disent-ils. Ils proposent une convention de Genève de la concurrence en sept mesures, parmi lesquelles la soumission aux quatre mêmes impôts que les commerces physiques, TASCOM, TVA, CVAE et taxes foncières, l'application du principe pollueur-payeur à toute la filière du colis jusqu'au data center et un moratoire sur les entrepôts. Bref, une sérieuse bride sur les ventes en ligne. En attendant, un millier d'enseignes ont aussi pris le contre-pied en se démarquant ostensiblement de l'événement. C'est l'initiative du Make Friday Green Again, ou Green Friday, déjà lancée l'année dernière.
Pourtant, Xavier, la France n'est vraiment pas la championne mondiale du commerce en ligne.
Et non, là, le e-commerce ne représente que 10% des ventes, contre 12% en Allemagne et 30% au Royaume-Uni. Quant au Black Friday, sorte d'institution mondiale depuis 2005, les champions sont bien sûr les États-Unis qui ont trouvé la solution pour prévenir les polémiques. Deux jours après le Black Friday dans les grandes enseignes, les fédérations ont institué le Cyber Monday pour les commerces en ligne, sans oublier pour les petits commerces le Small Business Saturday, lancé en 2010 par American Express. Bref, à chacun son orgie de promotion, et les chiffres les plus fous restent quand même ceux du Black Friday chinois, la fête des célibataires, 538 000 achats par seconde, et pour le seul Alibaba, le géant en ligne, 48 milliards d'euros de bénéfices, plus que le PIB cumulé de l'Islande, du Liban et de la Géorgie, note BFM.
Reste que c'est en France que le débat est le plus intense. Une raison à cela, Xavier ?
Oui, la crise, disent ses défenseurs, non-sens d'opposer commerce en ligne et commerce physique, déclare la directrice d'eBay France. Ils sont plus complémentaires. À ses yeux, d'ailleurs, la polémique révèle surtout la cristallisation d'une grande angoisse de la part des commerçants, et le débat devient même délirant et contre-productif, affirme toujours dans l'Express Jacques Delplat, le directeur d'un cabinet de conseil en politique économique. Selon lui, le e-commerce est même la solution sanitaire optimale et libérale à la crise actuelle, quitte à réguler les horaires et les foules via des systèmes de bonus-malus selon les catégories et les horaires. Mieux vaut l'incitation par les prix que, dit-il, le gosse-plan général et arbitraire qui détruit les commerces, prépare des armées d'électeurs populistes.
Alors faudra-t-il ouvrir un débat sur les habitudes de consommation ?
Eh bien, il est déjà lancé. C'est la grande thèse portée par exemple par Philippe Moati de l'eudémonisme contre l'hédonisme de la consommation, le bonheur plutôt que le plaisir, une mutation lente vers la consommation responsable. Ainsi, le coprésident de l'Obsoco relève dans la baisse de la fréquentation des centres commerciaux ou d'achat de vêtements ces dernières années autant de signaux faibles de cette transformation. L'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, le goût retrouvé de l'authentique remplacerait donc petit à petit les produits industriels toujours renouvelés, fourrés dans les mains et la bouche des consommateurs. Chant du cygne du capitalisme moderne, disait Slate, ou au contraire, cri de victoire. Dans ce débat sans fin de l'être et de l'avoir, rien ne ressemble plus en effet à un objet épanouissant qu'un objet dont on n'a pas besoin. Alors si vous avez d'autres questions, Tiffen, n'hésitez pas, passez-moi une commande.
Je n'hésiterai pas, en effet, Xavier Martinet, merci beaucoup. On retrouve votre chronique sur le site franceculture.fr.
I'm so used to being broke, but not no more. I'm buying all the things I never could afford. Like what the hell, top shelf. We gon' toast tonight to temporary wealth. Mama told me, baby, say that knowing me, I probably won't. All this money in my pocket gotta go. I'm so used to being broke.
C'était Entendez-vous l'écho, une émission préparée avec Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein. Demain, après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, on reviendra sur la carrière de celui qui fut peut-être le dernier grand argentier du Royaume de France. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. On attend également vos commentaires sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. As much as little brother's college bills, like seven rooms.